Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est ensemble jusqu'à 15h avec aujourd'hui autour de la table Rémi Barré, Thierry Moreau, Perico Légas et Pierre Rondeau. On vous attend également très nombreux au 32-16 pour réagir à cette augmentation assez faramineuse, 85% des décharges à ciel ouvert en France. Sommes-nous de plus en plus sales? Dites-nous ce que vous en pensez également sur l'appli RMC. Il y aura RMC Conso à 14h30. On reparlera voiture avec Charlotte Méritant avec des astuces pour réparer votre véhicule à tout petit prix. Et puis les immanquables, Rémi, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.
Oui, on parlera notamment de ces centaines de milliers de Français qui vont devoir changer d'adresse.
Ah bah oui.
Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi, mais je t'expliquerai tout à l'heure.
À cause des lieux dits, tout ça.
Voilà. Et d'une candidate aux européennes écologistes qui a dévoilé sa photo de campagne.
Mais ça lui ressemble pas.
Petit peu retouché.
Ah oui. Mais on a vu la photo, c'était pas un peu retouché, c'est très retouché. Et puis, on vous fait gagner, bien sûr, des places pour les JO dans cette émission.
Oui, exactement. Après-demain, nous serons à J-100 des Jeux Olympiques de Paris. Nous vous offrons pour l'occasion 100 places sur RMC. Dans chaque émission, vous allez pouvoir remporter vos deux places pour assister aux épreuves des JO. Ce peut être la natation, ce peut être le judo, la finale du 100 mètres, voire même la cérémonie d'ouverture. Pour vous inscrire, vous envoyez Paris 2024 par SMS au 7-32-16. Paris 2024 par SMS au 7-32-16.
RMC Estelle Midi.
14h03 sur RMC, on va poursuivre Estelle Midi avec le fléau du jour et c'est celui des décharges à ciel ouvert, que ce soit le fait de particuliers ou encore d'artisans. Ces dépôts sauvages d'ordures, de gravats ou d'appareils électroménagers sont en très forte hausse en France, Rémi, ces 4 dernières années. Plus 85%.
Oui, un phénomène qui n'épargne aucun territoire. En 2021, l'ADEME, qui est l'Agence de la Transition écologique, a ainsi recensé 36 000 décharges sauvages dans le pays, comme s'il y en avait une par commune. 1 million de tonnes de déchets sauvages se retrouvent ainsi dans la nature chaque année. Un problème majeur, d'autant qu'au-delà des nuisances visuelles et olfactives, les dépôts sauvages polluent les sols, l'air, les eaux. Ils peuvent provoquer des blessures, intoxications ou encore incendies. Et ils sont donc sévèrement punis par la loi, en théorie, jusqu'à 1 500 euros selon le code pénal pour un professionnel, un artisan par exemple, qui débarrasserait de ses déchets dans la nature. C'est 135 euros pour un particulier, même
c'est moins cher.
Selon les communes, ça peut aller plus loin. Les communes, justement, qui tentent de sévir. À Reims, l'année dernière, la ville a refacturé au total près de 26 000 euros à des habitants ou à des sociétés pour abandon de déchets dans la nature. Pour lutter contre ces dépôts sauvages, la municipalité de Saint-Tropez, elle, s'est dotée en juillet dernier d'un nouveau système de caméras qui détecte les déchets qui sont déposés hors des conteneurs. Alors, c'est un dispositif qui a un coût, hein, ces caméras. C'est 20 000 euros pour 6 mois de location à la commune. Mais elle a déjà fait ses preuves avec l'identification de pollueurs grâce à leur plaque d'immatriculation, ce qui a entraîné plus de 50 procédures de verbalisation en rien, ce ça en l'espace de 2 mois.
50 verbalisations dans une seule commune en 2 mois. Ah oui, ça fait quand même beaucoup, évidemment. Alors, cette explosion des décharges à ciel ouvert pose la question, sommes-nous de plus en plus sales? Pierre Rondeau.
Initialement, quand j'ai préparé ce sujet, j'avais le sentiment que c'était pas une explosion de, ou pas, mais en tout cas, que c'était pas une question, serons-nous de plus en plus sales, mais on l'a toujours été, qu'il y a toujours eu des dépôts sauvages. Mais moi, enfant, je me rappelle, je voyais des caddies balancés dans la mer pendant les vacances, de gens qui voulaient pas faire l'effort de rapporter leur caddie.
T'as déjà vu des caddies dans la mer, toi?
Mais oui, quand tu te balades, bien sûr. Tout le monde...
J'ai jamais vu de caddie dans la mer.
C'était des caddies à huîtres.
Où est-ce que vous allez passer vos vacances?
Belle-Île en mer, en l'occurrence, je me souviens.
Des caddies à Belle-Île.
Oui.
Ça a bien changé, je peux vous dire.
Des caddies super huîtres, Belle-Île en mer, et ben on les retrouvait dans la mer. Voilà, exactement. Donc moi, j'ai le souvenir de ça. Et donc, naïvement, quand j'ai préparé le sujet, je me suis dit, c'est pas simplement une explosion, c'est juste on a une augmentation de la sensibilité à ces dépôts sauvages, mais ils ont toujours existé. C'est ce que je m'étais dit naïvement. En écoutant Rémi, je constate qu'il y a des chiffres et que ces chiffres montrent à quel point ça a explosé, qu'il y a une augmentation des dépôts, que c'est pas juste un sentiment de saleté, c'est une réalité. Oui, donc c'est un constat et qui est vrai, donc on peut pas débattre là-dessus, c'est vrai, c'est factuel. On est de plus en plus, non pas, je dirais, sale.
C'est la flemme. Les gens, ils disent, oh, bah, tiens, on va les déposer.
C'est de l'égoïsme.
Aussi, ouais.
Et les gens ne pensent qu'à eux et qu'à eux-mêmes et qu'à eux seuls. Ils disent pas la collectivité, le vivre ensemble, respecter les règles, respecter les lois, respecter le règlement. C'est, ils ne pensent qu'à eux et qu'à eux seuls. La fainéantise absolue, c'est de l'égoïsme. Et alors, à cause de quoi? Est-ce que c'est le Covid? Est-ce que c'est les mentalités d'aujourd'hui? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? J'en sais
c'est
rien.
C'est la flemme. Ils regardent, ils voient que c'est la queue à la déchetterie.
Ils
vont mettre
ça
passer 25 minutes.
Et
ils vont mettre
ça en parallèle. En parallèle, j'ai aussi, je constate aussi, moi, en tant que prof, la diminution de la capacité d'attention des étudiants. Autrement, on disait qu'on pouvait tenir une heure de concentration après ces 45 minutes. Maintenant, on dit qu'à cause des réseaux, à cause des smartphones et autres, les élèves, les étudiants ont une capacité d'attention de 2 minutes.
Mais quel rapport?
Bah, dans le sens où la flemme a augmenté. Ils ne sont pas capables de se concentrer. Donc aussi, c'est par symétrie. C'est... La flemme augmente. Voilà, la flemme de se concentrer en cours, la flemme de regarder un match de foot en entier, la flemme de faire 100 mètres, 200 mètres, 1 km pour aller à une déchetterie, pour aller à une poubelle, la flemme. La flemme égoïste et individualiste.
Perico Legas, est-ce qu'il faut durcir les amendes? Parce que c'est franchement inadmissible, quoi.
Alors, d'abord, je m'inscris en faux sur la définition du phénomène. Ce n'est pas de la saleté, c'est de l'incivilité qui entraîne de la saleté. Mais d'accord. Au début, c'est l'incivilité. Alors, c'est pas la flemme, il y a des gens qui font des kilomètres loin pour aller cacher, de jeter quelque chose, une vieille machine à laver, voire une épave de voiture. C'est voilà.
Mais pourquoi ils la mettent pas à la déchetterie? Mais c'est ça la question.
Parce qu'il y a une procédure. Il faut
une machine à laver, non? Machine à laver, tu as la déchetterie, tu la balances?
Non. Aujourd'hui, les déchetteries, beaucoup de déchetteries sont avec une norme. Il faut avoir une carte. Et le déchetteur vérifie.
Mais toute la mairie donne des cartes.
Mais on est d'accord. Oui. Mais c'est une procédure, effectivement. Et c'est pas une histoire de flemme, c'est une histoire. Enfin, c'en est une quand même. J'ai pas envie de me prendre la tête à faire la procédure du respect. Je balance où je peux. Alors, il y a des pays où la décharge sauvage a pris des proportions absolument monstrueuses. En France, on est arrivé à un niveau de régulation assez honnête. Et là, depuis quelque temps, par manque de civilité, par manque d'éducation, par manque d'esprit collectif et, comme tu le dis, d'égoïsme, d'individualisme, eh ben je me débarrasse de ça. C'est des gens qui sont peut-être très propres chez eux. C'est ça, en plus, qui est scandaleux. Ils s'appliquent à eux une hygiène irréprochable. Par contre, ils peuvent polluer le terrain collectif. Ça, c'est absolument monstrueux. C'est symptomatique d'une décadence sociale.
Après, la déchetterie, c'est devenu de plus en plus compliqué. C'est-à-dire qu'avant, il y a 10 ans, tu allais à la déchetterie, tu mettais n'importe quoi, etc. Oui. Là, effectivement, faut tout bien trier, faut avoir ta carte.
Il y aurait des sanctions.
Non, je ne dis pas que c'est un truc d'une complexité monstrueuse. Mais je suis d'accord. Avec toi.
Jour,
et il n'y a pas assez de déchetterie aussi.
J'avais des cartons à mon nom, dans le local poubelle collectif.
Oui.
Je ne sais pas par quel hasard ils se sont retrouvés dans la rue.
Oui.
Eh ben, l'inspecteur est passé, il a vu mon nom, je me suis pris un PV, donc en expliquant que j'avais, la photo que j'avais, mais j'ai été verbalisé parce qu'on avait considéré que j'avais jeté mes cartons dans la rue comme ça, de façon sauvage, et je me suis pris un PV. Comme quoi c'est contrôlé. Voilà.
Mais ça, c'est très bien que ce soit contrôlé.
Mais c'est très, très bien. Mais et la sanction devrait être beaucoup plus chère que ça.
Après, tu vois, il n'y a pas assez de poubelles dans les villes. On l'a dit beaucoup sur Paris. Les poubelles, elles débordent parce qu'il n'y a pas assez de poubelles. Oui. Peut-être qu'il n'y a pas assez aussi de déchetteries.
Ah, tirez-moi
où vous habitez à la campagne.
Alors,
non, mais c'est pas toujours facile d'aller à la déchetterie.
Il traite tout, lui.
Non, mais
il y en a de plus en plus, quand même. Vous avez à chaque fois quelqu'un qui vous dit ça va là. Donc vous êtes quand même accompagné. Et franchement.
Le tri sélectif.
Ça se passe très, très bien. Non, mais le monsieur de la déchetterie vous dit attention, ça va plutôt là. Et quand tu dis qu'on arrive un niveau honnête de régulation, je sais pas où tu vis, mais chez moi, il y en a de plus en plus des déchetteries sauvages. Pourquoi? Parce que les artisans aujourd'hui, parce qu'on parle des particuliers qui laissent leur pain, mais les artisans, plutôt que de payer, parce que eux payent au kilo et les déjets qu'ils déversent, plutôt que de payer cette charge.
En tant que client d'artisan, tu payes aussi.
Ils te font payer, mais eux ne payent pas. Alors en plus, comme c'est à la campagne, c'est un peu plus diffus, c'est un peu plus caché, c'est un peu plus sournois. Derrière une haie, ça se voit pas tout de suite. Et puis les déchets entraînant les déchets, ça commence à faire une grosse décharge. Puis il y a aussi, tu disais tout à l'heure, c'est pas de la saleté. Non, c'est pas de la saleté. C'est de l'impunité. Tu as eu raison. C'est de l'incivilité. Tu as raison. Mais il y a aussi le fait qu'on a peu de risque de se faire prendre. Il y a quelques communes qui ont mis en place des caméras et qui renvoient l'envoyeur. Je trouve ça extraordinaire. On a vu 2 ou 3 reportages où le maire fait charger les gravats et les ramène à la personne qui les a achetés grâce à la plaque des matriculations et les factures très chères parce qu'elles facturent les gravats plus le transport. Je trouve ça extraordinaire. Ben oui, il y a un moment, ça se paye. Donc non, il y en a de plus en plus. C'est de l'incivilité, c'est de l'impunité, et puis c'est un non-respect de l'autre, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est terrible.
Oui, mais après, si t'avais aussi plus d'encombrants ou toi qui passe devant chez toi,
je suis d'accord. Aussi. Nous, par exemple, on a plus d'encombrants qui passent dans notre village. Ouais. En revanche, faut aller à la déchetterie, ouais. Et donc, dans un coin de la maison, j'entasse les trucs, et puis je vais une fois tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines à la déchetterie quand il y a beaucoup de choses à emmener. Mais c'est quand même bien fait. Il suffit de demander à la mairie la carte.
Mais c'est bien fait. C'est mais après, encore une fois, les encombrants dans les grandes villes, ça marche bien. À la campagne, ça marche moins.
Ça marche moins bien.
T'avais un autre truc aussi avant. C'est par exemple, t'avais un vieux meuble ou une vieille machine à laver. Tu savais pas la réparer, etc. Oui. T'avais Emmaüs, t'appelais Emmaüs. Oui. Emmaüs, il venait et il te débarrassait, entre guillemets, de tous tes meubles, de tes habits, de tes machins, de tes appareils électroménagers. Quand t'avais quelqu'un qui mourait dans ta famille ou n'importe, ou un déménagement, aujourd'hui, ils viennent plus.
Alors, donc, en fait, moi, j'ai déménagé il y a 2 ans, ils sont venus. Je m'étais débarrassé d'un
truc. Si c'est des livres, oui, mais si c'est des machines à laver, ils viennent pas.
C'est sûrement l'exception, mais moi, il y a 2 ans.
Malheureusement, parce que ça coûtait trop cher.
Dans Paris, un frigo, une cave à vin, une machine à laver, une plaque à induction et un four, ils sont venus.
Donc non, mais on en revient au débat de l'écologie, ça coûte cher. Donc le retraitement des déchets,
ça va être de pire en pire.
Ça coûte cher. Ça coûte cher à l'usager, ça coûte cher aux collectivités locales et ça coûte cher à nos impôts.
C'est
donc
proportionnel
ça coûte...
à la croissance et à la démographie.
Exactement.
Qui sont les deux sources de pollution de la planète. Croissance et démographie.
On va prendre Nicolas en ligne qui nous appelait au 3216 depuis Villeneuve-d'Ornon en Gironde et qui est commercial. Bonjour Nicolas.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Lico, est-ce que vous avez déjà vu des dépôts sauvages à côté de chez vous?
Oui, bien sûr. Bon, on en voit souvent. Hein. C'est pas rare de les voir, en effet. Sachant que tout à l'heure, vous parliez beaucoup de particuliers, etc. Mais il faut savoir que c'est aussi beaucoup d'entreprises et d'artisans.
Exactement.
Moi, je suis commercial, je suis dans le déchet, justement, dans le recyclage. Et ces matériaux, il faut savoir que c'est souvent des déchets de chantier où l'artisan n'a pas le temps de trier, les moyens de trier, de séparer les flux. Qui va regrouper ça dans une matière qu'on appelle le DIB, le tout venant.
Ouais.
Et qui doit normalement emmener chez un recycleur comme moi ou d'autres, et le payer. Il faut savoir qu'en Gironde, en 2024, on est à peu près aux alentours de 200 euros la tonne de facturer à ces artisans.
Ah oui, c'est pas mal quand même.
Donc ça fait quand même pas mal d'argent. Et du coup, bon, bien évidemment, ils préfèrent le vider dehors, ça coûte beaucoup moins cher, c'est même gratuit. Voilà.
Ou alors ils font une double facturation, c'est-à-dire que.
Le client paye, il faut savoir qu'il y a une taxe de l'État sur ces 200 euros la tonne. Aujourd'hui, en 2024, elle est d'un montant de 58 euros dans ces 200 euros-là. Donc ça s'appelle la TGAP, c'est la taxe générale sur les activités polluantes. Donc elle est de 58 euros et elle augmente chaque année jusqu'à 2025. On verra si c'est poursuivi en suivant. Mais c'est en gros pour échapper à ces prix-là que les artisans vident dehors. Après, il peut y avoir bien entendu les particuliers qui ont simplement la flemme, hein, tout simplement. Mais c'est une des raisons principales, selon moi, qui fait qu'il y ait beaucoup plus de décharges à ciel ouvert aujourd'hui.
Mais dis quoi, du côté de chez vous, quand ce que vous dites, il y a des dépôts sauvages, vous voyez quoi dans ces dépôts? C'est de l'électroménager, c'est des briques, c'est quoi?
C'est l'électroménager, vous allez avoir du placo, vous allez avoir de la laine de verre, des tuiles. Ouais. Et puis en plus, quand vous voyez un tas en bord de route, ça appelle les autres, en fait. C'est-à-dire que les gens vont voir un tas, bon, on y va en suivant. Et on accumule. Alors après, il y a des mairies qui peuvent nous mandater, nous, recycleurs, qui avons des déchetteries professionnelles ou des mises à disposition de bennes qu'on met auprès de nos clients professionnels. Ils nous appellent, des fois, ils nous mandatent pour aller récupérer ces déchets-là qui sont dans la nature.
Et il y a aussi un autre truc, Liquois, c'est tous les gens qui bossent au black. Il y a quand même des artisans qui bossent au noir. Et donc là, effectivement, pour aller déclarer tes déchets en déchetterie, c'est plus compliqué. Donc c'est sûr que c'est plus simple également de les laisser au bord de la route, même si c'est totalement incivique, bien sûr, comme comportement. Merci beaucoup, Liquois, d'avoir été avec nous. Et on a plein de messages sur l'appli RMC, Rémi.
Ouais, j'ai ce message notamment de Nicolas qui se plaint des déchetteries. Alors les déchetteries, c'est l'agglomération généralement. Donc il y a des déchetteries qui fonctionnent très bien,
bien sûr.
Fonctionnent peut-être moins bien. Lui, il se plaint notamment. Il y a pas mal de messages là-dessus sur les horaires d'ouverture des déchetteries. Certains se disent que voilà, elles ferment tout le soir. Ça, moi, quand je finis de travailler, parfois j'ai des choses achetées ou alors le week-end c'est fermé. Et certains se plaignent aussi de l'accès compliqué à certaines déchetteries.
Elles sont de plus en plus ouvertes le week-end quand même.
Oui, absolument.
Ouais, enfin, encore heureux, mais c'est vrai que c'est pas toujours pratique. Alors après, rien ne t'empêche de garder tes déchets chez toi et d'attendre que la déchetterie ouvre. C'est aussi une possibilité, je veux dire, qui s'offre à nous.
C'est la difficulté. Oui. Garder chez soi et attendre que ça ouvre. C'est
ce
que
non, mais je pense que les
à
villes.
À côté de la douche qu'on n'utilise pas tous les jours.
Non, mais les villes devraient quand même remettre au bout du jour les encombrants, notamment les petites villes, parce que ça aiderait beaucoup de gens.
Bien sûr, c'est un coût.
Oui, mais enfin, avec ce qu'on paye en taxe foncière, je veux dire, à un moment, on peut aussi.
Les habitations ont été supprimées, c'est décompensé par taxe foncière.
Tout le monde a eu des encombrants à un moment, à la déchetterie. Et c'est vrai que des fois, tu sais pas comment faire. Et si t'es tout seul, en plus, t'as une petite voiture pour amener tes déchets verts, bah bonjour.
C'est compliqué.
Tout ça est compliqué. Donc, à un moment, si la ville, effectivement, offrait ce service de passage d'encombrants, mais tout coûte cher. Ben, à un moment, faire des choix, c'est un choix qui concerne tout le monde. Donc, c'est plutôt pas mal.
On a fait des progrès énormes.
Bah oui, t'as qu'à voir. 85% d'augmentation des décharges sauvages.
J'ai vécu en Espagne sur un chenal d'un port, les gens jetaient leurs poubelles privées directement. Clac, c'était la norme. Alors, c'est fini ça.
Notre invité sur ce débat, c'est Axel Gibert, elle est coordinatrice du réseau Prévention des déchets chez France Nature Environnement. Bonjour Axel.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Et j'imagine effectivement que vous êtes attristé de voir cette augmentation des décharges sauvages. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour lutter contre ça?
Bah, le problème, en fait, sur les décharges sauvages, c'est que déjà, il faut se questionner sur pourquoi on a autant de décharges sauvages et du coup, pourquoi on a autant de déchets. Aujourd'hui, on produit beaucoup trop de déchets. Et je vous entendais parler tout à l'heure des déchetteries. Aujourd'hui, on a des prix notamment qui montent dans les déchetteries. On n'a pas suffisamment de déchetteries parce que on n'a plus les capacités de collecte et de tri suffisantes par rapport à la quantité énorme de déchets qu'on produit. Et c'est là où il faut vraiment se questionner sur nos modes de production et de consommation parce qu'aujourd'hui, on a des politiques publiques qui vont pas dans le bon sens, qui vont pas dans le sens de la réduction. Le financement dans le réemploi, il n'est pas du tout assez élevé. Par exemple, on parle de la filière du bâtiment, puisque près de la moitié des déchets qu'on retrouve dans les décharges sauvages, ce sont des déchets qui proviennent du bâtiment. La filière réemploi du bâtiment, elle est quasi inexistante. Donc aujourd'hui, il y a aussi des moyens importants qui sont à mettre sur la réduction des déchets à la source, donc sur la prévention, avec notamment des financements dans le développement des matériothèques, par exemple. En fait,
il y a plein de sociétés qui font des efforts en ce moment, qui réutilisent leurs matériaux, qui font des efforts aussi dans l'emballage. Là, pour le coup, il y a de plus en plus d'entreprises qui ont un comportement vertueux, même si c'est pas encore suffisant. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui augmente, en tout cas dans le secteur du bâtiment. Mais est-ce que les communes devraient aussi remettre au goût du jour, c'est ce que je disais, les encombrants, quoi, tout simplement, parce que ça éviterait effectivement aux particuliers d'aller jeter, notamment leurs vieux meubles ou leurs machines à laver dans le champ du voisin.
Oui, ben au niveau des communes, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, en effet, il y a les questions des encombrants. Il y a une question de sensibilisation aussi à faire importante auprès des habitants et des habitantes pour leur dire, voilà, aujourd'hui, nous, on a un système d'encombrants. C'est vrai qu'aujourd'hui, il m'arrive de parler encore à des personnes qui ne savent pas, en fait, qu'il y a cette possibilité d'appeler les encombrants. Alors, je sais pas la partie de la population que ça représente.
Mais du coup,
voilà, il y a cette question-là, mais il y a aussi, une fois de plus, la question des ressourceries. Aujourd'hui, les ressourceries qui permettent quand même à des personnes d'apporter leurs matériaux et de leur donner une seconde vie, des ressourceries, il y en a peu et on les trouve notamment beaucoup dans les grandes villes, mais il y en a beaucoup moins en dehors des grandes villes, donc il y a un financement aussi important qui doit être mis en place dans les ressourceries. Il y a aussi une sensibilisation à faire auprès des gens, parce qu'en effet on peut se questionner aussi sur le fait que des personnes puissent se dire, je vais déposer des déchets potentiellement dangereux comme des déchets du bâtiment ou des appareils électroniques aussi en pleine nature, où il y a du coup des conséquences qui peuvent être irréversibles sur les milieux mais aussi sur la santé humaine. Et c'est vrai que moi ça me questionne sur pourquoi les gens ne se questionnent pas en fait sur les conséquences que peuvent avoir leur action sur la biodiversité, mais il y a sur la santé humaine aussi, parce que les déchets sauvages c'est des lieux où il y a des créations de maladies, parce qu'on a des produits qui sont dangereux, qui sont laissés dehors.
Alors restez bien avec nous, tiens, on a Romain qui nous appelle du Finistère en Bretagne évidemment, et qui est agent territorial et qui voulait réagir sur ce sujet. Bonjour Romain.
Bonjour.
Bonjour.
Et vous, pour vous, ces décharges sauvages, c'est d'abord un problème de déchetterie, hein ?
Oui, absolument. En fait, le problème, c'est que beaucoup de déchetteries, enfin, les déchets sont traités plus par des entreprises privées. Nous connaissons tous une entreprise qui s'appelle Veolia, qu'on va dire, pas un monopole, mais voilà, on va dire, elle collecte et elle gagne de l'argent vis-à-vis de ça.
Ouais.
Et le problème de tout ça, c'est que des entreprises, des petites communes qui veulent installer les déchetteries pour les mettre aux normes, c'est hors de prix. On est d'accord que maintenant les normes qu'on demande à des petites communes ou à des communes de le faire ou de se regrouper pour les faire, bah, pour les gérer, les personnels soi-disant coûtent trop cher, donc on les donne à des entreprises privées. Donc vous avez des entreprises privées qui vont gérer un bâtiment public, un bien public, hein, enfin de la commune. Donc déjà, normalement, ça devrait être au service des gens de la commune, puisqu'ils l'ont financé. Ouais. Mais il se trouve que ben, le lundi, c'est ouvert de telle heure à telle heure, de telle heure à telle heure, et puis le mardi, pareil. Puis d'un seul coup, le mercredi, c'est fermé. Puis le jeudi matin, c'est fermé, parce que les personnels qui sont là ben, vont faire la collecte des ordures sur la commune. Donc le problème, c'est que quand les gens arrivent le matin avec leur camion ou leur remorque, nous c'est fréquent, ils arrivent, ils voient les déchets, ben, ils disent « Merde, j'ai fait le voyage pour ça, bon, pff, tiens, il y a un petit endroit là-bas, pouf, il est vide. » Donc ils vident leurs déchets, puis ils partent.
Oui, mais c'est quand même scandaleux. C'est-à-dire que même, enfin, à un moment, on peut aussi, quand on est artisan notamment, on peut quand même se renseigner sur les horaires de la déchetterie, parce que les horaires, ils ne changent pas.
Mais c'est pas les artisans, c'est ça. Enfin, c'est pas l'artisan propre, le vrai artisan, l'artisan qui a son nom, son entreprise, tout ça. C'est les micro-entrepreneurs, c'est tout ça. C'est les gens qui ont des micro-entreprises. Eux, ils veulent pas payer les déchets. Un gars qui fait de la rénovation comme ça, une petite entreprise qui fait de la rénovation, il faut savoir qu'il va être imposé sur son chiffre d'affaires, tout ça. Donc à un moment, s'il a trop de déchets ou qu'il fait des passages à la tant de déchets jetés dans l'année, on va lui dire bah, écoute, bonhomme, comment ça se fait que tu jettes autant de déchets puis que tu déclares que ça. Donc bah, le seul moyen, c'est je m'arrête dans un endroit, je vire, et puis je vais inviter tout le monde à regarder. Et nous, quand on ramasse des machines à laver, je vous assure que le cuivre, il n'y en a plus dans les machines à laver.
Ouais, non, je comprends, mais.
On nous ramasse que des carcasses de machines à laver. On ramasse pas une machine à laver. On ramasse des carcasses de machines. C'est-à-dire que, on arrive, les machines sont dépouillées, tous les câbles importants, enfin, tout ce qui est valorisable est sorti, et on trouve ces déchets-là.
Ouais.
Voilà, et le problème, c'est qu'il y a des gens, ben, voilà, il y a des gens qui prennent les machines, et puis voilà, il y a des personnes qui vivent en dehors du système, et qui ne veulent pas, qui ne veulent pas.
Mais qui ne veulent pas se plier aux normes, mais qui ne veulent pas payer à la déchetterie.
Autre chose aussi, c'est que les déchets, enfin, une autre question que je pose, c'est que vous triez, vous faites tous les efforts, vous allez à la déchetterie, vous payez pour mettre à la déchetterie, tout ça, puis on vous dit, ben, maintenant, vous ne ferez plus une tournée par semaine, mais ce sera une tournée toutes les deux semaines. Alors vous avez des conteneurs beaucoup plus grands, mais quand vous avez, quand vous avez l'habitude de mettre votre poubelle jaune toutes les semaines parce que vous faites le tri, et puis là d'un seul coup vous avez toujours le même conteneur, mais que avec tous les emballages que vous avez, votre conteneur jaune il est plein. Quand t'arrives sur deux semaines le passage, à un moment il y a une semaine, si vous compactez pas, si vous écrasez pas, il y a des personnes de là. Et puis il y a des gens, à un moment,
Mais après, vous avez raison, mais enfin, le compactage, ça devrait être appris à l'école, hein, quand même, qu'il faut compacter ses déchets, et qu'effectivement, quand on le fait, on se rend compte qu'au lieu d'aller à la poubelle tous les trois jours, tu y vas toutes les semaines.
Place, quoi. Ouais.
Et donc, ça devrait être un truc qu'on apprend aux gamins dès le plus jeune âge. Mais merci, en tout cas, Romain, d'avoir été avec nous. Damien, également, nous appelle de Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne. Et Damien a travaillé dans une entreprise d'électroménager pendant assez longtemps, et on vous donnait des consignes, on va dire pas très civiques, hein, Damien.
Bonjour ma chère mademoiselle Estelle.
Bonjour Damien.
Je vous appelle effectivement parce que justement j'ai entendu ce débat et que tout de suite je me suis dit ce truc-là était déjà très très scandaleux et je pouvais pas faire autrement parce que il me fallait un boulot à l'époque.
Alors qu'est-ce qu'on vous demandait Damien ?
Alors concrètement, moi j'allais installer du matériel chez les personnes, du matériel électroménager, ça peut être télé, réfrigérateur, etc. La machine à laver, la vaisselle, enfin tout ce qui concerne la maison. Et il était hors de question de revenir avec il fallait le larguer dans la rue.
Quand vous repreniez l'ancien appareil, votre société vous disait tu reviens pas avec.
Parce qu'en fait, du coup, il y avait un contrat avec le client pour qu'on reprenne son ancien électroménager, peu importe lequel. Et au bout du compte, il n'y a que les télés qu'on ramenait, parce que les télés, elles étaient valorisables et on pouvait éventuellement parfois les réparer. Moi, je vous m'est déjà arrivé à ramasser une télé dans la rue. Il y avait un fusible à changer à l'intérieur et elle refonctionnait.
Ça, bien sûr, mais l'entreprise vous disait, par exemple, t'es allé changer un lave-linge et une machine à laver la vaisselle et tu reviens pas avec. Mais vous en faisiez quoi alors?
Et ça dit qu'on le laisse dans la rue, en plein Paris, comme ça, sur le trottoir. De toute manière, pour être pris sur le fait, il faut être quand même. Et puis à l'époque, moi, c'est un truc que j'ai fait il y a plus de il y a une vingtaine d'années. Donc il n'y avait pas de caméra partout et je sais pas quoi. Donc on n'était pas.
De toute façon c'était votre patron et vous pouviez pas faire autrement quoi. J'imagine.
Moi je me suis fait livrer parce que j'ai emménagé ici il y a à peu près un an. Il y a deux ans pardon. et je me suis fait livrer de l'électroménager, des choses et des machins. Et en repartant de chez moi après les livreurs qui nous donnent des fourchettes énormes, je trouvais les emballages de l'électroménager qui m'avait livré, parce qu'il y avait rien à la base, comme je suis venu ici c'était tout vide. Ouais. Et les emballages étaient jetés dans la rue.
Mais ça m'est arrivé aussi, j'ai trouvé ça scandaleux. Où effectivement les livreurs repartent avec l'emballage et tu sors devant chez toi et il y a tous les emballages et en plus avec ton nom, donc c'est super. Donc je veux dire, effectivement t'as honte et tu dis mais comment c'est possible quoi. Oui, ça c'est vrai que ça arrive, mais merci en tout cas pour ce témoignage Damien. Voilà, les entreprises Axel Gilbert, on comprend qu'ils doivent évidemment aussi faire des efforts parce que c'est pas possible d'avoir ce genre de comportement quoi.
Oui, non, mais clairement, il y a un problème au niveau des entreprises. Il y a une question de comportement. Il faut vraiment faire de la sensibilisation, indiquer les points de collecte. Mais par rapport à ce qui a été dit, voilà, il y avait une des personnes au téléphone qui parlait de la poubelle jaune. On se questionne aussi sur comment ça se fait qu'on ait des poubelles jaunes qui débordent. Aujourd'hui, quand on va dans un supermarché, en tant que consommateur, qu'est-ce qu'on a comme accès dans un supermarché classique? C'est des emballages. C'est des produits suremballés. Et là, il y a vraiment une question de politique publique. Comment ça se fait que les entreprises aujourd'hui, elles puissent continuer à vendre des produits qui sont dans du plastique à usage unique, qui pour la plupart n'est pas recyclable. On a 20% du plastique aujourd'hui qui est recyclé en France. Enfin, on a un vrai problème avec les emballages. Et du coup, forcément, on produit beaucoup plus d'emballages aujourd'hui qu'on est capable d'en traiter. Et pourtant, il y a des solutions. Il y a le développement du réemploi. Si on revenait au système qu'on avait avant avec la consigne, où en fait on avait un emballage qu'on pouvait ramener dans son supermarché pour qu'il soit réemployé,
ça revient.
Mais pour travailler là-dedans directement au plus près des entreprises, en fait on voit qu'on a encore beaucoup d'entreprises qui ne veulent pas, soit qui ne peuvent pas, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas forcément ce qui est adéquat dans les supermarchés, il n'y a pas de centres de lavage qui sont à proximité. En fait, c'est tous nos modes de production qu'il faut repenser aujourd'hui, et c'est particulièrement vrai sur la question des emballages. Où nous, en tant que consommateurs, aujourd'hui, même si on a envie de faire des efforts dans un supermarché, on ne peut pas. Et ça, c'est pas notre faute. C'est la faute des entreprises qui, aujourd'hui, produisent des emballages à usage unique, alors qu'il y a quand même des alternatives. Ça,
vous avez raison. Mais alors, et le pire étant sur l'électroménager ou les meubles. Tu reçois des meubles, des fois, mais il y a plus de cartons que de meubles. Enfin, c'est totalement aberrant. Merci beaucoup, Axel Gilbert, d'avoir été notre invité sur ce débat. On termine avec des messages, peut-être, Rémi, et le résultat de notre sondage.
Allez, le plus immonde, nous dit Eric, c'est l'avant des sacs poubelles le long des routes de campagne, et les gens sont devenus de plus en plus écœurants. Avec ma mairie, le centre social et les enfants des écoles, nous faisons une fois par an un ramassage de déchets sur la commune. Chaque année, c'est presque 350 à 400 kilos de déchets que nous récoltons.
Les sacs de fast-food qui sont jetés des voitures.
Ouais, voilà. Et là, ça s'appelle de la saleté, là, pour le coup. C'est aussi de la saleté.
Là, on est d'accord.
Voilà. Il n'y a pas que de la flemme, il y a aussi de la saleté. Puis ça ne gêne jamais de mettre ta saleté chez les autres, ça gêne pas. Sommes-nous de plus en plus sales, Rémi?
Oui, et c'est majoritaire, c'est très majoritaire, oui, pour 88% ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
Mais on n'a pas eu trop de marge d'erreur aujourd'hui dans nos sondages. Allez, dans un instant, RMC Conso avec Charlotte Méritant. On vous parlait de voitures tout à l'heure d'occasion. Bah justement, Charlotte, elle nous donnera des astuces pour réparer nos voitures à tout petit prix. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 14h33, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Et tout de suite, c'est le moment de parler conso avec Charlotte Méritant. RMC Conso, c'est tout de suite.
Estelle Midi.
RMC Conso.
Et aujourd'hui, Charlotte, vous nous faites faire des économies grâce à nos voitures. Vous nous donnez une super astuce pour réparer nos véhicules à moindre coût.
Oui, vous en parliez tout à l'heure que la voiture devient quelque chose de luxe. Et c'est vrai, je ne sais pas si vous avez donné ce chiffre. Est-ce que vous savez à peu près à combien est le coût moyen des réparations d'une voiture à l'année, le coût moyen d'entretien d'une voiture, à combien il s'élève?
Non.
1 600 euros selon Aramis. Ouais, c'est minimum 1 000 euros et ça peut monter à 1 600 pour quelqu'un qui roule à peu près 20 000 kilomètres. Donc effectivement, c'est un poste budgétaire énorme. Et d'ailleurs, 4 Français sur 10 auraient déjà repoussé une réparation pour une raison financière. 1 Français sur 3 roule avec une voiture en mauvais état. C'était une étude faite par Fixter qui disait ça. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a un nouveau marché qui se développe et qui est celui des garages collaboratifs. C'est un moyen de faire réparer sa voiture en réduisant les coûts. Mais évidemment, comme son nom l'indique, il va falloir collaborer, il va falloir mettre les mains dans le cambouis.
C'est-à-dire qu'on répare soi-même sa voiture, en fait?
Oui, ce sont en fait des garages qui vous proposent de mettre à votre disposition leur local et leurs outils. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas tous un pont élévateur chez soi, donc c'est vrai que ça peut
non,
faire...
Non, ça on n'a pas, non.
Par exemple, le garage SG Self Garage à Caen vous propose de louer son pont élévateur pour 20€ de l'heure. Et pour 6€, vous pouvez utiliser tous leurs outils.
Oui, mais ça, c'est réservé aux gens hyper bricoleurs, en tout cas aux gens qui s'y connaissent en mécanique. Parce que moi, vous pouvez me filer un pont élévateur et des outils. A priori, je ne saurais pas changer une roue, mais enfin, je ne saurais rien faire, quoi.
Eh bien, non, même pas, en fait. Parce qu'il y a des professionnels dans ces garages qui sont là pour vous aider si jamais vous galérez un petit peu. J'ai discuté avec Romain Faison qui a monté donc, le garage dont je vous parlais à Caen. Et il m'expliquait qu'il avait vraiment tout type de profil. Il y a des jeunes femmes, il y a des moins jeunes. Il y a même des parents qui viennent initier leurs enfants à la mécanique. Donc vraiment, ça s'adresse à absolument tout le monde.
Ça permet de faire à peu près combien d'économies ?
20 à 40% d'économies pour une simple vidange, par exemple, avec accompagnement. Comptez 46€, ça fait à peu près 20% de moins que si vous alliez chez un professionnel et qu'il vous faisait la vidange lui-même. Après, ça peut être aussi des réparations beaucoup plus importantes. Par exemple, pour un injecteur, ça va vous coûter 300€ en le faisant vous-même avec l'aide d'un professionnel, alors que ça coûterait 800€ en concession. Donc là, c'est plus de deux fois moins cher. Là, plus la réparation va être élevée, plus l'économie va être importante. Et ça compte quand on sait que le coût moyen des réparations a augmenté de 7% en un an.
Mais est-ce que les garanties sont les mêmes que dans un garage classique ? Est-ce que si je répare moi-même ma voiture, j'ai la même garantie que c'est un garagiste chevronné ?
En tout cas, il y a une obligation de résultat. C'est-à-dire que vous devez repartir de là avec une voiture qui roule. Encore heureux, c'est sûr. Donc oui, vous devez repartir également avec une facture des réparations dès lors qu'elles ont coûté plus de 25€. Et d'ailleurs, quelle que soit la forme du garage, parce qu'il y a des garages qui sont en entreprise et il y en a d'autres qui sont en association. Et ça ne change à absolument rien, si ce n'est que lorsqu'ils sont en association, certains ont une véritable visée solidaires, donc ils appliquent des tarifs dégressifs en fonction des clients. Et voilà, certains ne sont accessibles qu'aux personnes qui sont dans une situation de précarité.
On en trouve partout de ce genre de garage ?
Oui, alors il y en a à peu près partout. C'est vraiment en train de se développer. Ça existe depuis une petite dizaine d'années. Il y en a de plus en plus. Il y en a à peu près 150 partout en France. Et si jamais vous voulez savoir exactement s'il y en a un qui se trouve près de chez vous, vous pouvez retrouver un annuaire qui s'appelle selfgarage.org et vous verrez exactement où sont situés. Il y en a une centaine qui sont référencées sur cet annuaire-là.
Merci beaucoup Charlotte Méritant, tous les jours à RMC Conso à 14h30 dans Estelle Midi. On parle de quoi demain Charlotte ?
Demain on parle d'échanger sa maison. Vous avez déjà essayé ?
Ça m'a toujours tenté mais j'ai jamais osé. Moi,
je vous dirai comment ça fonctionne.
Et
ça vous l'a fait, Thierry ?
J'ai échangé avec des gens. Donc quand vous passez chez le notaire, vous êtes échangiste et vous ne payez des notaires de frais de notaire.
Ah non, mais là c'est les vacances, ça n'a rien à voir.
Oui, pour les vacances.
Là, c'est...
Mais oui, une semaine, deux semaines max.
Mais exactement.
On peut même échanger sa voiture.
Ah oui,
ouais, on peut même échanger sa famille, il paraît.
Ah sa famille, bah, ça dépend des jours, mais il y a des jours où oui, effectivement, ça,
le on aura envie de se poser.
Merci beaucoup Charlotte, donc RMC Conso, à 14h30 tous les jours dans Estelle Midi. Et tout de suite, eh bien c'est l'heure des Jeux Olympiques sur RMC. On est à 102 jours des JO, mais on vous offre dès maintenant des places pour ces Jeux Olympiques, justement Rémi.
Exactement, des places pour les JO, pour toutes les épreuves. Là, en l'occurrence, on a le choix, mais on va peut-être demander à celui qui est avec nous.
Mais bien sûr,
choisir.
Exactement, on est avec Steve qui nous appelle de Saint-Joriot en Haute-Savoie. Bonjour Steve.
Bonjour.
Steve, vous pouvez être content. Vous pouvez être ravi parce que vous allez gagner des places pour les JO. Maintenant, reste à savoir quelle place, Steve, parce que nous sur RMC, on vous donne le choix. Et le choix, vous allez l'avoir entre quoi et quoi, Rémi ?
Steve, vous pouvez choisir soit deux places pour assister aux demi-finales ou aux finales d'athlètes. Il y a notamment la finale du 100 mètres femmes. La finale homme du lancer de poids, entre autres, ça c'est le 3 août prochain à Paris.
Génial.
Ou alors vous pouvez choisir deux places pour assister à la finale de skateboard, ce sera le 27 juillet prochain à Paris.
Alors on fait quoi Steve ?
Athlée ou skateboard ?
Eh ben, la finale de skateboard.
Ah bon ?
Ouais.
Vous avez pris le skateboard ? Mais attendez, c'est l'athlée.
J'aime le skateboard. Génial.
Mais enfin l'athlée c'est le sport roi !
Oui, mais enfin s'il a des enfants qui aiment le skateboard.
Ah oui, attends.
Non mais là, là je reste sans voix.
Vous avez raison.
Et comme ça me permet de récupérer peut-être votre place d'athlétisme. Donc, rien ne se perd, vous savez.
J'y viens pour la finale de skateboard. Hein.
Mais oui,
mais d'accord. Non mais c'est génial. C'est génial. Mais écoutez, Steve, on est hyper heureux pour vous. Voilà, vous allez pouvoir aller voir.
Merci beaucoup.
La finale de l'épreuve de skateboard des Jeux Olympiques. Bravo, Steve. Et on continue à vous faire gagner des places sur RMC.
C'est comme ça dans chaque émission d'RMC. Vous envoyez Paris 2024 par SMS au 732-16. Paris 2024 par SMS au 732-16.
Allez, dans un instant, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Et puis, il y aura notre humoriste également, Vincent Siroussi. Ce sera à 14h50 dans Estelle Midi. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 14h43, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, et c'est l'heure des immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.
RMC, Estelle Midi,
les immanquables.
Avec Rémi Barré, Thierry Moreau, Perico Légas et Pierre Rondeau. Et on démarre tout de suite avec la promenade du jour, Rémi.
Oui, à partir d'aujourd'hui et pour une durée de 2 mois et demi jusqu'au 30 juin, tout propriétaire de chien devra obligatoirement tenir son animal en laisse en dehors des allées forestières, sous peine d'une amende de 750 €. Sur les chemins balisés en forêt, en revanche, les animaux auront un peu plus de liberté à condition d'être à moins de 100 mètres et sous le contrôle direct de leur maître. L'arrêté ministériel date en fait de 1955. Il est réactualisé et vise à prévenir la destruction des oiseaux et de toute espèce de gibier et de favoriser leur repeuplement.
Oui, puis c'est quand même bien pour les gens qui se baladent et qui n'aiment pas les chiens, quoi, par
c'est
exemple.
Exactement là, ça, parce que quand on ça se balade, il y a un chien qui arrive très très rapidement vers vous, même si le propriétaire dit « Vous inquiétez pas, il est gentil. »
Ouais, il est gentil.
Enfin,
c'est
quand ça, il arrive à toute vitesse et que vous n'aimez pas les chiens, vous avez un problème avec les chiens, c'est un peu flippant, donc je trouve ça très bien. En plus, c'est une vieille loi qu'on n'appliquait pas.
Ouais.
C'est pas la première loi qu'on a jamais appliquée.
Voilà. Pourquoi on l'appliquerait?
Peut-être parce que c'est insupportable,
dans le sens je
comprends. Parce qu'il y a tout en plus de chiens.
Vos arguments, mais si c'est une loi qui date
de 1955, les gens avaient des chiens, peut-être.
Les mêmes chiens, c'est pas les mêmes mœurs.
Aujourd'hui, tout le monde a un chien, un chat, un machin.
J'entends.
Et c'est insupportable.
Non, mais j'entends. Je comprends les arguments, je comprends. Mais simplement, pourquoi si c'est une loi qui date de 1956, elle serait encore appliquée aujourd'hui?
Parce que c'est pas les mêmes chiens.
On met la main. Il y a des lois de 89 du 1789 qu'on applique toujours. Tu sais,
hein. Moi, je me pose la question, je vais dans votre sens. Je me pose la question, si moi, demain, je prends un chien, j'ai en forêt de Fontainebleau et je lâche sans laisse, est-ce que je vais avoir une amende de 750 €?
Bah oui, et ce serait très bien.
Si c'est une loi qui existe depuis 1956.
Parce que les gens ne savaient pas qu'il y avait cette loi. Et maintenant, on la remet au bout du jour.
Il me semble que les gardes forestiers, leur nombre était divisé par 10 en l'espace de 3 décennies. Il n'y a plus personne qui surveille aussi aujourd'hui en forêt.
Ouais, s'il y a besoin de gardes pour surveiller les gens, parce que les gens sont incivils. Excuse-moi, les gens doivent être civilisés et tenir leur chien en laisse.
D'accord, mais je suis désolé, moi j'ai un chien en forêt, je vais avoir le réflexe de lâcher le chien.
Eh ben non, en fait.
C'est pas ton social-démocrate, sois gentil. C'est que tu as de plus en plus d'incidents, c'est qu'il y a de plus en plus d'incidents, il y a des chiens de plus en plus dangereux qui sont lâchés. On parlait tout à l'heure des dépôts d'ordures sauvages. Aujourd'hui, les gens n'ont aucune civilité et ils laissent des chiens qui sont agressifs ou dangereux en liberté parce que c'est leur droit que le chien se promène. Eh bien, on applique tout d'un coup une règle qui existait en 55 dans un contexte tout à fait différent. Aujourd'hui, il faut l'appliquer, tant mieux. Heureusement qu'il y a eu la loi de 55, maintenant il n'y a plus qu'à l'appliquer.
Voilà le problème.
Ça ne sert à rien d'avoir une loi.
Mais voilà le problème. Est-ce qu'elle sera appliquée?
Sans parler des chiens qui devraient avoir des muselières et qui n'en ont pas, des chiens dangereux.
La classification, c'est au niveau non pas du caractère, mais au niveau de la race. Et à ce titre-là, un Golden Retriever doit porter une muselière, c'est absurde. Parce qu'un Golden, c'est gentil comme tout.
Non, ils ne sont pas tous gentils. C'est animaux qui peuvent avoir des réactions animales.
Les labradors sont
gentils,
tu vois. Tu as des chiens de guerre aujourd'hui. Tu as des chiens qui sont des chiens d'agressifs.
Ça existe, effectivement, mais pas tous.
J'ai pas dit tous, j'ai dit mille fois plus qu'en 55.
Oui, mais juste ce que je dis, c'est que la classification...
Il y a un peu de Rottweiler en 55.
Et alors, aujourd'hui, tu as l'appareil de photo. Tu prends la photo de la compagnie, tu poses un problème aux propriétaires.
Ils sont nombreux en France. Il faut rappeler que les chiens les plus mordeurs en France...
C'est les petits chiens.
C'est le labrador.
Alors qu'on te dit, le labrador, il a mis des enfants et tout, et bim. Donc tu vois, labrador, pareil, muselière, terminé.
Demande au médecin, aux urgences, combien il reçoit de morsures d'enfants.
C'est plus que les trottinettes, je peux te dire. Bon, enfin, pas au niveau des morsures, mais au niveau des accidents. La retouche du jour.
La retouche du jour. Juliette de Cossens, candidate écologiste pour la liste écologie au centre aux élections européennes, a dévoilé vendredi dernier son affiche de campagne. Affiche sur laquelle elle, apparaît son visage, visiblement.
Pas que.
Retouché.
Oui, pas que, hein. Oui, pas que son visage. Hein.
Notamment son visage, visiblement retouché. La candidate explique ne pas avoir eu recours à Photoshop, mais au travail de l'intelligence artificielle. Moyen, selon elle, de faire connaître sa liste et son projet.
Alors, oui, alors on a quand même regardé. Non, mais parce qu'il y a eu des photos avant-après. Oui. Il y a des photos d'elle, bon, bah, d'elle et des photos de l'affiche. Et c'est vrai que, force est de constater qu'il y a eu quand même quelques petits coups de pinceau, quoi. Il y a eu quelques petites retouches, quand même.
C'est pas une première. Cette candidate, elle est connue pour être régulièrement candidate à n'importe quelle élection et à chaque fois utiliser Photoshop ou maintenant, selon une IA. Elle l'assume totalement. Quand on va la voir sur les réseaux sociaux et que des gens vont commenter son affiche en se moquant, entre guillemets, d'elle, elle répond à chaque fois. Elle assume totalement, elle, ce qu'elle se dit au fond d'elle, c'est comment on parle de moi.
Mais c'est assez marrant.
On voit sa tête en vrai sur le plateau et on peut faire la différence entre à quoi elle ressemble en vrai et la photo de son affiche officielle. Alors c'est pas Europe Écologie Les Verts, hein, c'est Europe, non, c'est Écologie au Centre,
c'est un
autre. Écologie
elle fera 0,0001%. Elle est juste contente, on parle d'elle. Actuellement on parle d'elle, elle nous regarde à la télévision.
On parle pas d'elle pour...
mais elle est contente.
Oui, mais on parle pas d'elle pour les bonnes raisons. Et moi je me dis en plus écolo. Oui, mais normalement en plus, enfin je sais pas, moi j'ai une image de l'écolo.
Pas du tout. Attendez, elle, il y a 5 ans, aux dernières élections, c'était pas écolo, c'était majorité présidentielle. Mythomane, parce qu'elle n'a jamais été soutenue par la majorité présidentielle. Cette personne, je la connais pas, mais elle a dans son esprit quelque chose de vicié. Elle est contente parce qu'on parle d'elle.
Elle n'a pas recours à l'intelligence artificielle, elle a recours à la bêtise artificielle.
Je ne dis pas ça d'elle, je ne la connais pas.
Et en même temps, on n'en aurait jamais parlé si elle n'avait pas fait ça.
Exactement, actuellement, elle nous écoute. Si ça se trouve, elle va retweeter ce qu'on est en train de dire sur elle, elle sera contente. On a parlé d'elle sur RMC.
C'est ce qu'elle dit.
Perico, les gars, est-ce qu'il faudrait interdire le Photoshop sur les affiches de campagne, quand même, quoi ?
Il faudrait, en tout cas, le repenser, le réglementer. Interdire, je ne sais pas, c'est violent.
Si, quand tu vois sa tête en vrai, non, là, c'est tromperie sur la marchandise.
Il y a une liberté.
Tu votes pas pour une tête non plus.
Mais je suis désolé, quand on voit l'affiche, c'est ce qu'elle est en vrai. Moi, je pense voter pour une personne en particulier.
Mais tu votes pas pour une photo, tu vas quand même voir les programmes. Enfin, j'ose espérer.
Toutes les affiches sont retouchées. Le village de Mitterrand, à l'époque, il était retouché.
Mais pourquoi elle fait ça?
Oui, mais il est moins voyant que certaines retouches de cette demoiselle. Je vois ce que je veux dire.
Une affiche électorale est une affiche publicitaire. Oui, voilà. Donc ça. Elle rentre dans le monde de la communication. On y fait ce que l'on veut.
Ah, mais donc dans ce cas-là, on devrait indiquer, il faut tout retoucher.
Non.
Si, comme
bah
pour
si,
la
on doit, si, on doit.
Elles seront toutes retouchées.
Mais
faudrait l'indiquer.
Pour la photo, tout le monde est remaquillé entièrement.
Mais t'es maquillé, t'es pas retouché.
Mais que vous retouchez la gueule ou la photo, quelle différence?
Ah bah quand même.
Non, c'est pas du tout pareil.
Oui, d'accord, je vous comprends, parce que c'est une demoiselle.
Non,
mais non, pas du tout.
Pareil.
Mais tu peux pas te montrer. Enfin, à un moment, c'est toi. Tu pars en campagne, c'est toi. C'est pas ta photo, quoi. Enfin, je sais pas.
Je pense que le contenu du programme est beaucoup plus déterminant.
Mais moi, je trouve ça grave arrive là, excusez-moi.
Il y a un seuil. Il y a un seuil à ne pas franchir. Si le mec de 91 ans, on lui met une photo quand il en avait 35, c'est sûr qu'il a tromperie sur la marchandise.
Bah voilà.
On n'en est pas là, voilà. Et au contraire, il y a des fois, on se vieillit parce qu'on a l'air plus sage et plus sérieux.
La couverture du
voyez, si un jour j'étais candidat, je me ferais retoucher dans le sens de plus âgé, voyez.
Non, ne faites rien.
Non, ne faites rien.
Restez comme vous êtes, c'est super.
Ça,
oui,
c'est ce que je me disais aussi.
C'est vraiment bien.
Non, mais c'est très bien.
Vous voulez rajouter quelque chose, Père, ou pas du tout?
Non, je parlais de la couverture du dernier livre de Nicolas Sarkozy, c'est sa photo d'il y a 20 ans, par exemple. C'est plus pas la même personne.
Ou la taille. Et la taille.
Oui. Mais enfin, on sait bien que c'est sa photo d'il y a 20 ans.
Oui, mais voilà, quand il se met en scène, c'est lui, mais il y a 20 ans.
Oui, mais s'il se représentait demain à la présidentielle, ce qui, à mon avis, n'arrivera pas.
C'est rigolo quand on voit les dédicaces, c'est qu'on voit la photo derrière et lui devant.
Voilà.
Et on voit la couleur du
chapeau. C'est ça, effectivement, c'est pas la même personne.
Oui, mais en campagne présidentielle, il mettrait une photo de son âge là, réel.
Sûrement, mais en l'occurrence,
il mettrait pas une photo de lui quand il avait 13 ans, tu vois ce que je veux dire. Enfin, je ne vois pas bien. Non, c'est comme Édouard Philippe, il va pas mettre une photo de lui quand il avait des cheveux, tu vois. Enfin, je veux dire, à un moment, il va mettre la photo de lui aujourd'hui. Ça me paraît assez logique. Bref, ce qui est assez logique également, c'est de recevoir tout de suite notre humoriste Vincent Cerroussi, puisqu'il est 14h51 sur RMC.
RMC, Estelle Midi.
Cerroussi n'a pas tout compris.
Bonjour Vincent.
C'est un plaisir de vous revoir, Estelle.
Mais oui, moi aussi, Vincent. Et aujourd'hui, Vincent, vous ne comprenez pas pourquoi Emmanuel Macron a tenu à rassurer les Français pour les JO.
Bah oui, Macron qui parle, ça vous rassure, vous? Moi, pas du tout. La dernière fois qu'il a pris la parole pour éviter une catastrophe, la Russie a envahi l'Ukraine. Donc, je me méfie un peu. Revoyons nos attentes pour les JO. Regardez, là, on est en vie. Ben voilà, c'est déjà pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
Ouais.
Après, Macron s'est présenté en grand seigneur, un garant des JO et de la paix mondiale. Il a même appelé les pays en guerre à une trêve olympique. Ça veut dire qu'il va aller à l'ONU et qu'il va dire « Excusez-moi, c'est possible de cesser le feu 5 minutes et la finale de canoë. Voilà, j'espère que ça va marcher.
Vous n'êtes pas senti rassuré par le président ?
Si, bien sûr, Estelle. Macron a tenu à prévenir et notamment à s'excuser pour les blocages à Paris.
On va beaucoup restreindre la circulation. Pardon à tous les riverains parce que ça va être beaucoup de contraintes.
Heureusement qu'il nous prévient, hein, Estelle. Mais évidemment, les embouteillages à Paris, vous connaissez, vous, Estelle ?
Non.
Mais ça n'existe pas. Des travaux partout, des embouteillages, jamais. Après, je ne sais pas vraiment à qui il s'adresse quand il dit ça, parce que nous, les Parisiens, pour les JO, on ne sera pas là. Hein. On aura déjà sous-loué notre appart à 7000 balles et ça dégage. Franchement.
Vous exagérez quand même, Vincent. Il y a quand même des bonnes nouvelles.
Oui, en effet. Il y a quelques bonnes annonces. Macron a sous-entendu qu'il voulait porter la flamme olympique.
On verra si quelqu'un m'invite à la porter, mais c'est pas prévu au programme.
Non, on sent qu'il a envie quand même.
Ouais, enfin, on sent que personne n'a invité.
Personne n'a invité, ça c'est pas faux. Mais je suis pour. Je vais vous dire pourquoi. Comme tous les Français, moi je rêve que Macron porte la flamme et que Denis Brogniard arrive et dise Emmanuel, les Français ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Ça serait génial. Juste un petit regret quand même, c'est qu'à quelques années près, c'est Sarko qui aurait porté la flamme et voir un président courir avec une flamme plus grande que lui, on se serait quand même bien marré. Faut le dire.
Le président a aussi dit qu'il allait assainir la Seine.
Tout à fait, il l'a dit pendant l'interview d'ailleurs.
À Paris, vous découvrirez une eau au gaz vraiment naturelle, riche en protéines, en calcium, en étronium, en urinium, en nitrate de prostate et en neutro-excréments.
Ah, ça donne envie, hein, évidemment, la Seine assainie. Macron a aussi dit qu'il se baignerait dans la Seine comme Hidalgo. Bon, autant j'étais pas chaud de voir Hidalgo en maillot de bain, mais Macron, oh là 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 là, il a déjà préparé les biceps, il est en train de faire les fessiers là. T'as toutes les mamies du Sud qui vont arriver. Eh, il est beau notre président, hein. Autant j'avais envie de voir au Péricot torse nu, mais Macron en maillot de bain, j'aimerais bien être Brigitte, hein. Franchement, je vous le dis. Hein.
Vincent, dans cette midi, on a aussi parlé de l'augmentation des dépôts sauvages. Les Français sont-ils de plus en plus sales ?
Je sais pas s'ils sont de plus en plus sale, en tout cas plus qu'avant, ça dépend de la période, quoi. Je veux dire, il y a encore une période dans l'histoire où on déféquait partout dans la rue, alors qu'aujourd'hui, oui, bon, c'est seulement à Gare de Lyon. Donc voilà, on a quand même évolué sur la question. Souvenez-vous de la personne qui a jeté ses excréments. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de déchets dans nos villes. Bah, rien qu'à l'Assemblée nationale, il y en a 577. Mais les encombrants, c'est pas forcément un mal, hein. Une fois, je parlais à un toxico à Château-Rouge, là, dans le nord de Paris. Il m'a dit, c'est génial, voilà, les encombrants dans la rue, tu peux trouver un frigo, une étagère. Si t'as 15 euros, tu peux même trouver une femme. Il est drogué. Il est drogué. Mais voilà, pourquoi se priver.
Mais vous pensez pas quand même que la rue n'est pas un lieu pour jeter ses encombrants comme ça, quand même ?
Ça dépend, Estelle. T'as des bonnes surprises. Tu vas dans la Creuse, tu vois les encombrants, tu dis tiens, il y a encore des habitants ici. Voilà, hop, tout de suite, ça fait quelque chose, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de villes avec des encombrants, notamment en Île-de-France. Hein. Il y a un divorce sur deux. La moaitié des encombrants dans la rue, c'est des mecs. Hein. Ils errent dans les rues en espérant trouver une repreneuse. Après, si tu veux te débarrasser des encombrants, il faut faire comme dans le 16e ou à Neuilly-sur-Seine, à côté de Paris. Là-bas, tu vois les habitants, ils disent alors là, on a jeté notre commode Louis XV, un Picasso et deux écrans plats à 3000 euros. Voilà. Croyez-moi, là, les encombrants vont disparaître très rapidement.
Merci beaucoup, Vincent Cerussi. Tous les jours, 14h50 dans Estelle Midi, en podcast rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement. Et tout de suite, eh bien, voici Vincent Moscato, le super Moscato Show.
Bon, vous avez
bien.
Ça va,
ouais.
C'est magnifique.
Ouais, c'est gentil.
Tu nous as manqué la semaine dernière.
Bah, c'est gentil.
Moscato olympique.
Bon, alors.
FC Barcelone, PSG.
Oui.
Luis Enrique doit-il faire plus simple, rassurer ses joueurs? Parce qu'il donne l'équipe au dernier moment.
Ah oui, ouais,
Il est intouchable. Voilà, le match, 65 points. 65 points contre Exeter.
Oui.
Exeter.
On le prononce pas,
c'est comme Leicester.
Leicester.
Exeter.
Enfin, c'est beaucoup.
Là, c'est beaucoup. Voilà, 65 points. Ils ont morflé, mais grave, ils étaient 40 degrés à Toulouse. Ça a chauffé. Je vais te dire, ça a été très dur pour ce club. Nadal reprend à Barcelone. Y a-t-il encore de l'espoir ?
Je l'aime.
Ah, ben oui, d'accord, mais ça,
c'est je l'aime, mais je crois qu'il y a de l'espoir.
C'est pas une réponse.
Ouais. Ben, je sais, mais je crois pas. Et Dieu sait que ça me déchire le cœur de dire ça, mais je crois qu'il y a plus d'espoir.
La vie, c'est un naufrage.
Ben ouais.
Il se pète comme un vieux Sandor, un vieil élastique, là. Pam, ça claque.
Vincent Moscato, c'est tout de suite.
Le miracle du Lyonnais.
Oui. Le super Moscato Show, tout de suite. Et nous, on se retrouve, bien sûr, demain, midi 15h. Dans Estelle Midi sur RMC. Salut à tous.